position de croyant en Jésus-Christ, nos bénédictions en Christ, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est les trois premiers chapitres. Et on est entré maintenant dans la deuxième série d'Éphésiens où c'est plus maintenant notre position, mais maintenant notre conduite. Notre conduite en Christ ici-bas. Et 4, 5, 6, aujourd'hui, ce soir, j'aimerais qu'on regarde Éphésiens 5, puis les versets 3 à 14, mais puis là, il avait clarifié qu'est-ce que c'est marcher d'une manière digne de la vocation que l'on a, de l'appel. Bien, c'était dans les 6 premiers versets du chapitre 4, c'était de s'efforcer de maintenir l'unité de l'esprit. Des versets 7 à 11, s'assurer de jouer notre rôle dans l'Église. À chacun, Dieu est monté au ciel, puis à chacun de nous, il a donné une mesure du don de Christ, puis on est appelé à le reconnaître, ce don-là, puis à l'exercer dans l'Église. Et aussi, des versets 12 à 16, chapitre 4, marcher digne, c'était aussi de chercher la maturité collective de la communauté chrétienne. Parce que non seulement Dieu a donné des dons individuel à chaque croyant pour qu'il œuvre dans l'Église, Dieu a fait des dons de personnes à l'Église pour l'équipement, pour le perfectionnement des saints, pour que l'œuvre du ministère avance. Et marcher d'une manière digne, c'est de chercher cette unité, de chercher cette maturité dans les divers dons à l'intérieur de l'Église locale. À partir du chapitre 4, verset 17, on a embarqué dans un autre marché. Plusieurs fois dans l'Épître aux Éphésiens, on a cette notion de marcher, se conduire. Et là, on avait marché en disciple de Christ. Qu'est-ce que c'est marcher en disciple de Christ? Bien là, on avait vu trois éléments la semaine dernière. Un, c'était une marche qui était différente des incroyants. Chapitre 4, les versets 17 à 19. Croyants, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont le cœur endurci, alors ils ne comprennent pas la marche. Et nous, c'est pas comme ça qu'on a appris Christ, qu'on a appris de Christ, qu'on est devenus des disciples de Christ. On a une marche maintenant qui est différente de celle des croyants. Et là, il nous a dit dans chapitre 4, versets 20 à 24, comment cette marche-là était différente. On ne fait pas juste enlever notre ancienne manière de vivre, puis on marche soudainement différemment, mais on a un changement intérieur. La vie chrétienne, elle commence toujours avec l'intérieur, la personne de Christ en nous qui renouvelle notre intelligence, et parce que notre intelligence est renouvelée, bien à ce moment-là, on a des changements extérieurs, on aura des comportements extérieurs qui vont être différents. Alors, dans chapitre 4, versets 20 à 24, Le changement, la marche était initiée par un changement intérieur. Puis les versets 25 à 32, on avait vu que c'était une marche, après ça, extérieure, des changements extérieurs. Une marche qui était dans la justice, dans la sainteté, qui était dans la vérité. Dans chapitre 4, les versets 25 à 32. Et ce matin, je devrais dire jusqu'à verset 31, parce que même si dans notre Bible, on a coupé au chapitre 5, verset 1, c'est plutôt le verset 32 qui commence une nouvelle section dans chapitre 4, où là, il nous dit de marcher, mais marcher dans l'amour. Comment est-ce qu'on marche dans l'amour, comme on a vu ce matin? Premièrement, dans le verset 32, il nous disait d'être persévérant. Persévérant dans la bonté, persévérant dans la compassion, persévérant dans le pardon, parce que Dieu aussi nous a pardonné. On a besoin de se pardonner mutuellement, réciproquement, parce que Dieu nous a pardonné en Christ et nous sommes appelés à marcher dans l'amour en étant des imitateurs de Dieu, puis en suivant l'exemple de Christ. Deux choses pour Christ, il s'est livré lui-même comme une offrande, une notion volontaire, et aussi comme un sacrifice. Suivant l'exemple de se donner de façon volontaire et de se donner de façon sacrificielle comme Christ. Et ça, c'est marcher dans l'amour. À partir de 5.3, il y a une autre notion de marché. Et maintenant, ça va être dans un autre contexte. Jusqu'à maintenant, les marchés du chapitre 4, aller jusqu'au chapitre 5, verset 2, c'était comment on marche au sein de la communauté chrétienne, entre croyants. Comment qu'on doit se conduire entre croyants? À partir de chapitre 5, verset 3, mais là, ça va être comment on doit se conduire dans la société, au sein de la société. Quelle est notre conduite chrétienne? Et évidemment, maintenant, si dans la communauté, notre marche fondamentale doit être caractérisée par l'amour, dans la société, notre marche fondamentale doit être caractérisée par la lumière. Et c'est ce que l'on voit ce soir, marcher dans la lumière. Des versets 3 à 14 qu'on va lire dans quelques instants. Et après ça, dans la société, à partir des chapitres 5, versets 15 à plus loin, il va dire « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » Regardez autour. Conduire, même mot marcher, péripatéo, de marcher maintenant en regardant avec discernement autour, marcher avec sagesse dans le monde. Et il va continuer après ça, non seulement dans la société en général, mais comment on marche, 5:21 à 6:9, comment on marche dans le foyer aussi. Comment on marche dans le couple, à partir du verset 21. Comment on marche avec les enfants dans nos foyers, à partir du chapitre 6, verset 1. Comment on marche avec les serviteurs, chapitre 6, verset 5 et 9. Je dis dans le foyer parce que au premier siècle, les gens n'allaient pas à shop travailler. Ils travaillaient toujours à l'intérieur de la famille. Chaque famille avait souvent sa propre industrie. Alors, quand la Bible parle du foyer, elle parle souvent de ces trois personnes-là, les parents, les enfants, puis les serviteurs. Elle dit, maître, traitez bien vos serviteurs, mais en général, c'était toujours les serviteurs dans la même maison, parce que chaque maison était boulanger, par exemple, ou une autre maison était des ébénistes, une autre maison était des électriciens. Des potiers. Il n'y avait pas beaucoup d'électriciens dans ce temps-là. Ce n'était pas une grosse industrie. Mais dans le foyer, il y avait le couple, les enfants et les serviteurs. Puis après ça, à partir du chapitre 6, verset 10, bien là, il nous dit « Fortifiez-vous dans sa force toute-puissante parce qu'il n'y a pas juste une conduite dans la société, mais Dieu a placé ses enfants à l'intérieur de l'univers. Puis à l'intérieur de l'univers, il y a une bataille. C'est pas juste une marche, là, mais il y a une bataille cosmique contre le diable, contre les démons, et il y a une bataille pour l'avancement du royaume de Dieu. Et Paul nous monte encore vers le ciel pour dire, hey, dans tout l'univers, vous êtes en marche pour l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est les chapitres 6, les versets 10 à 20. Puis après ça, à la fin de versets 21 à 24, il va conclure avec des informations personnelles, puis une dernière bénédiction. 4 à 6, marcher. Marcher avec dignité, marcher en disciple de Christ, marcher dans l'amour et maintenant dans la société, marcher dans la lumière. Et ça, c'est là où on est rendu ce soir, Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 3. Puis si vous avez trouvé, bien, on va lire les versets 3 à 14, puis on va se lancer dans l'étude de ce texte-là. Seigneur, merci encore pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur parce que ta parole est lumière. Et on veut te prier encore ce soir que tu nous aides à marcher dans la lumière de ta parole, que nos vies dans la société manifestent qui tu es, manifestent que nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et Seigneur, peu importe où tu nous appelles ou tu nous permets de marcher, permets-nous Seigneur d'être des enfants de lumière parce que nous sommes lumière maintenant en toi. Alors, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Bénis-la à nos cœurs ce soir. Nous t'en prions encore au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 5, verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Devenez des imitateurs de Dieu, marchez dans la lumière. Ça, c'est fini pour toute la section de la communauté chrétienne. Maintenant, dans la société, marchez comme des enfants de lumière, au verset 8. Et dans la première section, marcher dans la lumière, ça veut dire marcher en excluant l'égoïsme. Marchez pas pour vous-même, marchez pour les autres. Marcher dans la lumière, c'est exclure l'égoïsme. C'est avoir une conduite sainte. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot « saint » Qu'est-ce que ça veut dire être saint? À part pour un service particulier et de façon négative? Le mot « saint » veut dire un autre élément pour de positif, être mis à part pour Dieu, mais être saint. Le modèle que l'on avait des gens dans le passé, une personne qui était sainte, on dit « Oh, t'es une sainte personne. » Des fois, je dis « Moi, je ne suis pas un saint. » Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pas parfaite, parce qu'on a dans la notion de sainteté, séparation du péché. Être saint, c'est deux affaires. Être séparé du péché, être consacré à Dieu. Ça, c'est d'être saint. Être séparé du péché, c'est d'être pur, saint. Alors, le marcher dans la lumière, c'est avoir une conduite qui est sainte, qui est pure, qui n'a pas d'impureté dedans, de débauche, de cupidité. C'est d'avoir une conduite sainte plutôt qu'avoir une conduite égoïste. Et là, il va parler, c'est d'avoir des paroles de bienséance, des paroles positives, plutôt que des paroles grossières et vaines. Deux éléments dans les versets 3 à 7. Dans la première, une qui est cette conduite pure, cette conduite sainte, il dit qu'il n'y a pas de débauche, qu'il n'y a pas d'impureté, qu'il n'y a pas de cupidité, ainsi qu'il convient à des saints. Les saints sont au ciel? Non, les saints sont sur la terre. Et ils ont une conduite sainte, ils ont une conduite pure, qui n'est pas marquée par la débauche, par l'impureté, par la cupidité. La sainteté se vit à l'exclusion de la convoitise. Et cette convoitise-là est manifestée par, dans le cas où il mentionne, beaucoup de sexualité qui est déréglée. En réalité, tous les péchés sexuels, les péchés sensuels, ont leur source dans une vie qui est égoïste, dans une vie qui est égocentrique, dans une vie qui cherche sa propre satisfaction dans l'exploitation de l'autre plutôt que dans le service de l'autre. Tous les péchés sexuels, sensuels, que l'homme utilise, c'est toujours pour utiliser l'autre à son plaisir plutôt que de servir l'autre. Et ça ne doit pas caractériser, évidemment, le croyant. Qu'est-ce que c'est la cupidité? Il y avait la notion de débauche, impureté, puis il a nommé aussi cupidité. L'amour de l'argent, puis il y a même plus large que l'argent. L'amour de posséder, de prendre, d'accumuler pour soi. Alors, le marcher dans la lumière, c'est marcher avec une conduite qui est sainte plutôt qu'une qui est une conduite qui est axée vers le service des autres plutôt qu'une conduite qui est axée vers utiliser les autres pour notre propre satisfaction. Les mots qui sont employés ici sont des mots bien généraux, là. Débauche, c'est le mot le plus large pour c'est le mot porneia, c'est le mot le plus large pour la notion de péché sexuel. Immoralité, Bible du Sommeur traduit immoralité plutôt que débauche, c'est un terme très général. L'impureté, ça va avec le mot saint. Une autre traduction dit des pratiques dégradantes, tout ce qui est impur, des termes très généraux qui sont opposés au concept d'être moral, d'être de la moralité puis de la pureté. qui doit caractériser le royaume de Dieu. Il commence avec le verset 3, il parle de ses péchés sexuels ainsi que la cupidité. Puis là, il revient au verset 5 avec la même idée. Sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, il répète les trois qu'il avait nommés, c'est-à-dire idolâtre. Qu'est-ce qu'il aime? Quelle est son idole? Lui-même, exactement. De posséder pour lui-même. Dieu n'est pas son. L'Éternel n'est pas son Dieu, mais lui-même devient son Dieu, c'est-à-dire idolâtre, notre héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Sachez-le bien. Dieu, Galate, il dit Dieu n'est pas. On peut pas se foutre de Dieu dans un sens. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Si ma vie est caractérisée par la débauche, l'impureté, la cupidité, plutôt que par la lumière et servir, si ma vie est caractérisée par prendre, utiliser les autres pour ma satisfaction personnelle, ben, dis, faites-vous pas d'image, ne faites pas d'idée, ces personnes-là n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ. C'est une caractéristique de l'incroyant et pas une caractéristique du croyant. Il parle de sainteté. Il parle aussi de parole dans les versets 4 et dans le verset 6. C'est comme, il dit 3, 4, puis après ça, il revient 5, 6. 5 va avec 3, 6 va avec 4. Mais dans le verset 4, il parle à ce moment-là des paroles maintenant. Qu'on n'entende ni paroles grossières, des propos insensés, des propos équivoques. Encore des trois mots qui arrivent. C'est la seule fois qu'ils se trouvent dans le Nouveau Testament, c'est ici. Des paroles grossières, des propos insensés. Des propos équivoques, encore des mots qui sont un peu difficiles à traduire, mais marcher dans la lumière, c'est exclure l'égoïsme, c'est exclure les paroles grossières, des paroles vaines, puis donner des paroles qui communiquent une grâce, des paroles qui disent, au verset 4, qui sont bienséances, qui pas des paroles qui sont contraires à la bienséance. C'est quoi la bienséance? Il me semble que c'est un vieux mot, ça. Mes parents disaient qu'il y avait des cours à l'école primaire de bienséance. Hein? Puis la sainte... Alors, dans les cours de bienséance, il y avait comment on nettoie ses ongles, comment on met la fourchette à gauche, le couteau à droite avec les cuillères, les bonnes manières, comment bien se tenir, comment bien être. Et ça paraissait avec les paroles aussi. Ça existe-tu encore des paroles bienséantes? Madame, monsieur, c'est-tu juste ça? Des paroles qui sont conformes. La politesse, user de prévenance réciproque, la Bible dit lorsqu'elle parle d'amour. Mais que mes paroles soient bienséantes, soient positives, qui communiquent des actions de grâce, qui soient assaisonnées de sel. Ça, c'est plutôt que d'être des paroles, le premier qui est écrit ici, il dit des paroles grossières. On pourrait les traduire obscènes, honteuses. Le mot, c'est excrotes, escroquerie, je ne sais pas, des paroles. Il y a un autre mot dedans qui n'est pas beau. Des paroles. C'est la seule fois qu'il est dans le Nouveau Testament, là. Des paroles honteuses, des paroles obscènes, des paroles grossières, des propos insensés, folles. C'est le mot morologia et en grec, un moron, on dit ça même en anglais, he is a moron, ça veut dire il est un détraqué pas mal. Mais morologie, des paroles folles. Faites attention à avoir des paroles folles. Ou encore des paroles, le troisième mot, eutrapelia, des paroles ambiguës, des paroles pour tromper. Je trouvais ça drôle. Dans notre vieille Louis II, ça dit pour les propos équivoques, quelque chose qui est sans équivoque, qui est direct, quelque chose qui est équivoque, qui peut aller de soi d'un bord pour de l'autre. Mais dans ma vieille Louis II, ça dit est-ce que vous avez une vieille Louis II au verset 4? Pas dire non, des plaisanteries. Elle dit des plaisanteries. Puis quand je disais ça, ça veut dire quoi? La conduite chrétienne, on ne doit pas dire des plaisanteries. Et même la Bible du Sommeur a dit des plaisanteries équivoques. Elle ramène la notion de plaisanterie. Ça n'a rien à voir avec l'idée d'avoir un bon sens de l'humour, puis faire des farces. Là. C'est pas, fais pas de farce, la Bible dit, tu ne diras pas de plaisanterie. c'est pas. Mais comme dit le mot, c'est trapélia, des attrapes, puis avec eux qui est bon. La notion que nos paroles soient des attrapes, des attrapes bien montées, ces paroles équivoques. Faites attention. Jésus a dit plus simplement que votre oui, que votre non soit non. Ça arrive-tu des fois que nos paroles on dit quelque chose, mais on voudrait que l'autre comprenne quelque chose de légèrement différent? Ça m'arrive, ça. De pas tout dire clairement la chose, claire, là. Mais plutôt, là, comment qu'il dit ça, tourner autour du pot, dans un sens, là, avoir des paroles qui sont des belles attrapes, qui sont équivoques, qui sont pas... Ça n'a rien à faire avec faire des farces, d'avoir un bon sens de l'humour. Mais que nos paroles, par exemple, ne soient pas obscènes, honteuses, qu'ils ne soient pas des folies, et qu'ils ne soient pas non plus ambiguës. Qu'on n'ait pas des paroles pour essayer d'attraper, de tromper l'autre. Mais des paroles, il donne d'autres notions positives, des paroles qui vont être bienséantes, qu'on entende plutôt des actions de grâce, des paroles positives. C'est facile, hein, dans notre bouche, de sortir toutes sortes de paroles qui sont avec des messages subliminaux, cachés, mais souvent ces messages-là, c'est souvent des messages négatifs, des pièges, des attrapes par en arrière. Au contraire, qu'on n'ait pas de difficulté à dire des actions de grâce. On disait que pour tout commentaire négatif, on devrait donner 10 commentaires positifs aux autres. Pratiquez-vous ça, vous? Moi, j'ai bien de la misère. Je dirais toujours que les commentaires négatifs, ça sort plus facilement que les commentaires positifs. Ça vous dit-tu quelque chose? Il semble des fois je veux dire des bonnes choses à Alma ou aux enfants, puis c'est comme si ça me gêne. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, par exemple, il me semble que ça ne me gêne pas de le dire. Voici les faits, hein? Voici, je te le dis, là, c'est comme ça. C'est facile, hein, de dire les choses. Je suis tout seul là-dedans, hein? Il me semble que ça gêne de dire des actions de grâce, des bonnes choses, puis ça ne nous gêne pas de dire les choses plus négatives. Bien, dans la société, avec notre prochain, marcher dans la lumière, c'est exclure l'égoïsme. C'est être au service des autres plutôt que d'usurper les autres. Et avec nos bouches, c'est d'être bienséant, de faire des bonnes choses, de communiquer de l'action de grâce, plutôt que, comme j'ai mentionné, des paroles grossières, des paroles ambiguës, des paroles folles. Ça, c'était les versets jusqu'au verset 6. Alors, il répète encore que personne ne vous séduise par des vains discours, des discours vides, parce que c'est à cause de ça que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, on n'a pas de part avec eux, pas de part avec des vains discours, des paroles vides, des paroles ambiguës. Marcher dans la lumière, alors, un deuxième élément, c'est d'exclure les ténèbres. Qu'est-ce que ça vous dit le mot « lumière » de façon biblique? Qu'est-ce que ça fait la lumière? Comment ça définit un chrétien? Il dit en quelque part, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « Autrefois, vous marchiez dans les ténèbres? » C'est-tu la même chose? Ça aurait pu être ça aussi. Mais pourquoi il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres? » Oui, Julie? On était habité par les ténèbres, marchait dans les ténèbres. C'est ce qu'on reflétait, ou ça ne reflète pas grand-chose, les ténèbres. ça nous caractérisait. On était ténèbres. Et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Et c'est qui ça, avant puis après? Avant, c'est avant quoi? Avant le salut. Alors, il y a toujours la notion de conversion. Et maintenant, vous êtes lumière. Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, disait au chapitre 2. Maintenant, il vous a rendu à la vie. Vous étiez mort, vous êtes vivant. Vous étiez ténèbres, vous êtes maintenant lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, être lumière, alors? Comment ça va se manifester? Qu'est-ce que ça veut dire, être lumière? Le thème de la lumière dans les Écritures. Marcher dans la vérité. Lumière et vérité, ça va ensemble? La lumière différencie le bien et le mal. OK. Alors, on a un rôle dans la société de se cacher si on est lumière? Non, évidemment, de briller. Il faut briller. Voyons. Brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans... Je suis la lumière, a dit le Seigneur. À nous maintenant de briller dans un monde de ténèbres. La lumière, en réalité, les versets, vous étiez ténèbres autrefois, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, alors marchez comme tel, marchez comme des enfants de lumière. Et là, il va clarifier comment cette lumière-là se manifeste dans la vie du chrétien. Marcher dans la lumière, alors ça va être exclure les ténèbres. C'est refléter Christ, la lumière de Christ, parce qu'on est devenus des fils de lumière. Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Puis dans le sermon sur la montagne, il dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Puis il a dit aux croyants, vous êtes la lumière du monde. Puis il a dit, une lumière dans Matthieu 5, qu'est-ce qu'on fait avec une lumière? On ne le met pas en dessous de... On la met en évidence pour éclairer. Le chrétien doit être... doit vivre, non pas caché, mais en évidence, pour laisser briller la lumière de Christ à travers lui. Et comment est-ce qu'elle est caractérisée? Comme si on avait tourné dans Colossiens chapitre 1, peut-être on peut tourner là, Colossiens 1, les versets 12 et 13. Dieu nous a transportés, il nous a transférés d'un royaume à un autre. Colossiens, j'ai dit 1, les versets 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, évidemment, des saints, dans le royaume des saints, dans la lumière. On a changé de royaume, on a eu une nouvelle nature où Christ vient habiter en nous, où lui est lumière, alors on est pour manifester cette lumière-là. La vie du croyant est passée des ténèbres à la lumière et cette lumière-là doit se manifester. Puis là, il va donner différentes manières dont ça se manifeste. Il dit, marchez, premièrement, comme des enfants de lumière. Vous êtes lumière. Gardez-les allumés. Marcher comme des enfants de lumière. Matthieu 5, 16, plusieurs connaissent ce verset-là. Il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Est-ce que c'est possible des fois que, justement, notre lumière, on la cache, justement? Il dit marcher comme des enfants de lumière. Soyez, dans un sens, soyez fiers de ce que vous êtes. Brillez. Gardez votre lumière allumée. On a besoin de ça. Les flashlights sont bien utiles. Quand on s'en sert. Quand on allume. Des farces que les jeunes disent, allume, voyons. Réveille, ouvre-toi. Et les chrétiens ont besoin d'avoir des vies allumées, des vies alertes, des vies où ils éclairent, des vies où ils font une différence. On est lumière. On est placé dans un monde de ténèbres. Est-ce que ça devrait paraître? Est-ce que les gens qui m'entourent voient la différence dans ma vie? Est-ce que ma lumière brille? Brille. Ça, c'est ce qu'on est appelé à marcher comme des enfants de lumière. Qu'est-ce que ça a comme fruit? Verset 9, la lumière. Le fruit de la lumière. Alors, la lumière, elle est non seulement, la vie du croyant est non seulement allumée, mais la vie du croyant doit être fructueuse. Et puis les fruits de lumière, comment il donne trois mots? Bonté, justice, vérité. Trois mots encore assez essentiels. On avait dans le chapitre 4, verset 32, soyez bon, compatissant, dans 4, 32. Là, il dit soyez bon encore. La bonté, la justice dans la société, faire le bien, avoir la droiture, et encore vérité. Le monde est dans l'erreur et dans le mensonge. Être la lumière, c'est partager la vérité. Elle porte du fruit. Le fruit de la lumière, fruit de l'esprit aussi. Galates chapitre 5, verset 22, qui est l'amour, la joie, la paix. Être lumière dans le monde, c'est porter aussi le fruit de l'esprit. La vie du croyant doit être allumée. La vie du croyant doit être fructueuse. Verset 10, qu'est-ce qu'il nous demande de faire maintenant avec la lumière que nous avons? Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Dokimazo, tester, éprouver. La lumière nous donne, elle doit nous donner le discernement. Le croyant doit marcher dans la société avec discernement. Il doit être capable de évaluer, de éprouver les œuvres et de conserver. Qu'est-ce qu'il va conserver dans les œuvres autour? Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Il y a besoin de s'assurer ce qui plaît au Seigneur. Est-ce qu'il y a des choses qui plaisent au Seigneur dans les activités à l'extérieur de la communauté chrétienne? C'est des choses qui plaisent au Seigneur? Évidemment. Mais je me dois de regarder, d'avoir du discernement dans tout ce que je fais à l'extérieur de la communauté chrétienne, de tester et de faire ce qui plaît au Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la société qui plaît au Seigneur. On peut-tu aider les scouts? C'est-tu correct, ça? On peut-tu aider des personnes à se promener en chaise roulante? Il y a quelqu'un qui m'a parlé cette semaine que je pense que c'est ça qu'elle faisait. Une journée par semaine, elle le donne à un organisme bénévole, comme ça, pour aider, tout simplement. Petite madame en chaise roulante, amener quelqu'un à l'hôpital, juste faire le bien. On regarde, on examine et on fait ce qui plaît au Seigneur, mais on doit tester. C'est pas automatique. La vie lumineuse du chrétien a du discernement. Et elle agit avec lumière. J'aimerais qu'on tourne dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Elle, comme je dis, elle teste, elle éprouve. Jean 3 nous mentionne un peu la même chose dans les versets 19 à 21. Quelqu'un peut lire Jean 3, 19 à 21? Vas-y donc, Richard. Les hommes préfèrent, la société préfère les ténèbres à la lumière. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils préfèrent les ténèbres? Parce que dans les ténèbres, les œuvres ne sont pas manifestées, ne sont pas claires. Mais quand la lumière arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle montre les œuvres mauvaises et les œuvres mauvaises sont manifestées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées. Et justement, ses œuvres sont, parce qu'elles sont faites en Dieu, celui qui marche dans les ténèbres, bien, il ne veut pas venir à la lumière parce qu'il sait que ses œuvres ne sont pas faites en Dieu. Le croyant brille, il marche dans la société avec discernement. Il éprouve et il évalue les œuvres pour s'assurer de faire ce qui plaît au Seigneur, et il ne prend point part alors aux œuvres des ténèbres, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il s'en sépare, il se sépare du mal. La vie lumineuse, de marcher dans la lumière, c'est se séparer du mal et de réprouver le mal. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. À quoi Dieu nous appelle-t-il envers les œuvres infructueuses des ténèbres? Comment ça se vit, ça, de réprouver, de condamner les œuvres mauvaises? En prenant position. Je lis ça, puis j'étudiais ça, puis je me disais, est-ce que le Seigneur est en train de nous appeler à se battre contre toutes les choses mauvaises qu'il y a dans la société, de courir après toutes les choses négatives, puis dire, garde ça, faut condamner ça, faut condamner ça, faut condamner ça, faut aller dans toutes les résistances contre toute l'injustice qu'il y a dans la société. C'est-tu un peu ça qu'il est en train de demander? Il dit de ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt des condamnés. Le mot grec ici, c'est « eklenko », qui est le mot « convaincre ». Le Saint-Esprit nous convainc de péché, convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui fait ça. Il travaille dans le cœur des gens, puis il les convainc. Et nous, il nous dit plutôt, participez pas aux œuvres infructueuses, mais convainquez-les. Convainquez. Comment est-ce qu'on va convaincre les gens du mal, de leurs ténèbres? En leur présentant Jésus, est-ce que c'est toujours combattre le mal? Ou si on met la lumière dans les ténèbres, qu'est-ce que ça va faire aux ténèbres? Ça va les éclairer, puis ça va l'éclairer. Est-ce que ça peut les convaincre? C'est David qui prêchait l'autre jour sur le « ce seront des charbons ardents, faites le bien, parce que c'est des charbons ardents que vous placez sur la tête. » En faisant le bien, je suis en train de... Ça met en évidence le mal. Un Pierre dit la même chose, il dit « alors qu'il vous calomnie comme vous étiez des malfaisants. » C'était Serge, je pense, qui mentionnait ça. Oh oui, Romain 12, c'est ça. C'est toi qui as prêché là-dessus, là. alors qu'il vous calomnie comme faisant le mal, il voit vos bonnes œuvres, puis ils sont convaincus de mal. Je ne suis pas sûr, moi, que le chrétien il est appelé à revendiquer puis à se battre partout là où il y a de l'injustice dans le monde. S'il fait ça, là, il n'y aura plus le temps pour marcher. Et des fois, on est reconnu un peu comme ça, d'être contre à peu près tout ce qui se passe dans la société, alors que ce qu'on a besoin, c'est d'être pour la vérité. J'étais chez M. Tarsis cette semaine, et puis M. Tarsis, il aime bien l'histoire. Il est un homme passionné par l'histoire, par son livre, son dictionnaire Larousse. Si vous connaissez bien M. Tarsis, il y a des adjectifs plus que la grande majorité des gens. Quand il s'embraye sur un adjectif, il y en a 12 en ligne. Mais il a son Larousse sur sa table, puis là, il me sortait encore une coupe d'adjectifs cette semaine. Je ne comprenais pas, il m'a montré ça, c'était là. Mais il y avait la notion les Belges ont été au Rwanda, puis là, il a dû quitter le Rwanda pour le Burundi, puis là, Glorieuse est venue ici, puis elle a fait venir du Burundi, il est venu ici, puis il est vraiment heureux d'être en Amérique du Nord, pays de liberté. Mais son héritage catholique lui a montré qu'il apprend qu'on est des protestants. Puis là, hein, protestant, c'est d'être contre, c'est de protester. Puis je disais, voyez-vous, c'est pas ce que je comprends, moi, quand j'emploie le mot protestant. Puis là, toute la famille est autour de la table. Qu'est-ce que ça veut dire? Pro, on est-tu contre quand on dit pro? Non, on est pour. Puis testare, ben lui, il connaît bien son latin. Il était, c'est un homme qui a enseigné le français à des séminaristes, à des jeunes qui voulaient devenir prêtres. Là, testare, c'est témoigner, c'est parler, c'est dire la vérité. Alors, pro testare, alors ça veut dire... être pour la vérité, dire la vérité, être pour le testament, pour l'évangile. Puis la première fois que c'est employé, le mot protestant, c'était par des évangéliques à la diète de Speer qui dit « nous protestons ». Et ce qu'il disait par « nous protestons », c'est « nous sommes pour le témoignage des Écritures » et par conséquent, l'enseignement de l'Église catholique à ce moment-là, elle erronait parce qu'ils étaient « nous protestons ». Nous publions clairement le testament. Et par conséquent, on est quand? Mais quand on est d'un héritage catholique, bien, protestant, ça veut dire être contre. Parce que c'est ça que nous, on a appris de l'autre bord, même si c'est contraire à l'étymologie du mot même, protestant. Mais tout ça pour dire, quand on est appelé à condamner le monde, est-ce que Dieu nous appelle à protester tout ce qui va mal? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on est appelé à témoigner pour la lumière partout ce que nous sommes. Et en témoignant la lumière partout ce que nous sommes, ça met la lumière sur les ténèbres, ça chasse les ténèbres et ça convainc, condamné, convainc, ça convainc les ténèbres. Oh boy, c'est pas la bonne chose à faire. La vie du croyant lumineuse, elle se sépare du mal et elle le réprouve. Elle convainc par sa lumière le mal. Elle prend position de par son comportement plus que par revendication. 1 Corinthiens 15, verset 12. 1 Corinthiens 5, plutôt, verset 12. Et je pense que ça doit nous interpeller de notre manière dont on prêche l'Évangile à l'extérieur, chez les non-croyants. De ne pas toujours être condamnant, mais de manifester la vérité. Et l'Esprit de Dieu va convaincre les non-croyants de péché, de justice et de jugement. Et nous, on n'a pas toujours à taper sur la tête, on a présenté la vérité. On doit se séparer du mal. En train de dire de vivre dans le mal avec eux autres. On doit se séparer du mal et on doit être une lumière de sorte que le mal est vu et Dieu va convaincre. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 12. Paul il dit aux croyants de Corinthe de discipliner à l'intérieur. Et il dit au verset 12, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans? » Que vous avez à juger, pour ceux du dehors, c'est qui les juge? Dieu les juge. Pour ceux du dedans, bien là, ôtez le méchant du milieu de vous. Mais on n'a pas à condamner, à juger les gens du dehors. Dieu va le faire. Mais on a à briller, par exemple. On a à se séparer du mal. Puis on a à prendre position, comme Yvan, à prendre position pour la vérité, à briller pour la vérité. Et en faisant ça, on donne lumière sur les choses qui sont dans les ténèbres et on les convainc, on les réprouve à ce moment-là. Et je pense que c'est un peu ce qu'il mentionne aussi après, verset 12. « Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté et lumière. » Qu'est-ce qu'il vient de dire au verset 13? Tout ce qui est réprouvé, tout ce qui est condamnable, il apparaît où? En pleine lumière. Et d'où sort cette pleine lumière-là? Les chrétiens. Alors, tout ce qui est réprouvé, soudainement, ça l'apparaît en présence de la lumière. Les gens s'actuent autant auprès de vous quand ils savent que vous êtes là? Les gens se laissent-ils aller dans le mal, dans les histoires les plus salées quand vous êtes là? Non. En tout cas, moins. Il y a quelques semaines, je me change toujours dans la même équipe de hockey, puis ils ont changé les chambres, puis je me suis changé dans une autre chambre, puis un ami il a dit « Oh! » Comment il a dit ça? Donc, « Révérend l'abbé est là! » Il dit « Je ne suis pas sûr si vous allez pouvoir vous changer ici, si vous allez pouvoir être né. J'étais assis là, mais il me semble qu'il y avait beaucoup plus de cordialité. Puis... Peut-être que le vocabulaire a changé légèrement. C'est correct. C'est ce que le texte, je pense, nous dit. Il dit, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière parce que tout ce qui est ainsi, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pourquoi, voilà une dernière caractéristique de la lumière, c'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. La lumière du croyant va éclairer l'incroyant et elle va lui dire, réveille-toi, relève-toi, sors des morts dans un sens. Le croyant dans la société est lumière et sa lumière est éclairante pour le croyant. Elle pointe les gens vers la lumière. Et j'imagine que les Éphésiens, c'est ça qui leur est arrivé. Ils étaient morts dans leur péché, dans séparés de Dieu, et la lumière a brillé dans les ténèbres, la lumière a été vers eux, et la lumière les a réveillés, les a relevés d'entre les morts. Alors il nous dit encore, brille, marche dans la lumière, c'est exclure les ténèbres, puis en brillant, ça va éclairer l'incroyant et ça va pointer les gens vers la lumière. Dans la communauté chrétienne, marcher dans l'amour. Dans la société, marcher dans la lumière. Allumez vos lanternes. Portez du fruit de bonté, de justice, de vérité. Ayez du discernement dans les œuvres qui sont devant nous. Séparez-vous du mal et brillez, puis ça va convaincre les ténèbres de leur péché. Puis en même temps, en étant éclairant, vous allez donner une direction à l'incroyant pour qu'il se tourne vers la lumière et que Christ l'éclaire et que Christ le sauve. On a encore du travail à faire. J'ai encore du travail à faire, en tout cas, à briller dans notre société. Je vais juste terminer avec les deux derniers versets de Éphésiens. Je trouve qu'il y a un bon appel pour chacun de nous de briller, puis de continuer à marcher par la foi. Il dit dans chapitre 6, verset 23, « Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Paix, amour, foi soient pour vous. Lumière en ce qui concerne votre marche dans les ténèbres et que la grâce vous accompagne, vous tous qui dit qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Seigneur Dieu, encore merci pour le privilège de t'appartenir, le privilège de nous avoir fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Donne-nous, Seigneur, là où tu nous places, que ce soit à Québec ou à travers le monde, partout où ce que tu nous donnes de marcher, donne-nous de marcher dans la lumière, de refléter la lumière de ta personne. Seigneur, donne-nous de vivre pour toi. Donne-nous, Seigneur, d'éclairer notre monde de ténèbres, afin que notre prochain soit éclairé, que Christ l'éclaire et qu'il vienne à ta connaissance. Oh Seigneur, encore merci pour le privilège que tu me donnes d'ouvrir la parole de Dieu. Merci pour ses frères et ses sœurs. Seigneur, bénis-les encore par ta parole. Que ta parole soit une lumière sur leur sentier, un guide pour leur vie. Et merci Seigneur, parce que la lumière conduit vers toi, la lumière du monde. Et je veux te louer pour ça, que tu es notre lumière. Au nom de Jésus, nous te louons, nous te prions. Amen.